Hervétis est né le 5 juin 1955. On dit la date quand nous avons des jeunes. Il est physico-chimiste dans le laboratoire de chimie du Collège de France sous la direction du professeur Jean-Marie Laine. Il est rédacteur en chef de la revue Pour la Science et conseiller scientifique des magazines scientifiques d'Arte, Archimède, et de la cinquième, Pi égale 3,14. Il présente la gastronomie moléculaire en compagnie de Christian Conticini dans l'émission hebdomadaire Toc à la loupe sur la cinquième. Il est un des créateurs de la gastronomie moléculaire qui explore expérimentalement les tours de main de la cuisine domestique ou de restaurant. Il se passionne surtout pour l'agronomie, les mathématiques, la chimie, la physique et depuis une dizaine d'années, la chimie et la physico-chimie appliquées aux arts culinaires. D'où toute cette présentation. Oui. Il est membre honoraire du Club international des Toques Blanches, membre d'honneur de l'Académie nationale de cuisine et lauréat de l'Académie du chocolat. Il a reçu en 1999, le prix Télévision Jeunesse du Festival Images et Sciences pour l'émission Pi égale 3,14, donc sur la cinquième. Ses publications, Hervétis publie de nombreux articles de vulgarisation scientifique dans des revues telles que Pour la Science, La Bonne Cuisine. Il est éditeur de nombreux livres de vulgarisation scientifique, tels des bandes dessinées scientifiques, des guides illustrés. Et il est auteur d'ouvrages dans diverses collections, Les secrets de la casserole, chez Belin, en 1993, Révélations gastronomiques, Belin, 1995, et Science et gastronomie, Pour la Science, La casserole des enfants, chez Belin, en 1998. Bien, maintenant, Hervétis, c'est à vous.
Merci. Bon alors, rassurez-vous, je ne suis pas tout ça. Moi, je suis un enfant qui a 10 ans, même si je suis né en 55, c'est vrai. Mais enfin, j'ai 10 ans, hein, je revendique d'avoir 10 ans. Et quand on a 10 ans, qu'est-ce qu'on fait? On joue au bidon. Non, c'est pas comme ça que je voulais commencer. Non, on est dans une université, donc je ne devrais jamais dire des choses pareilles. Dans une université, on ne dit pas qu'on a 10 ans. Enfin, on peut dire d'autres choses, on peut faire des enseignements. Mais enfin, moi, j'ai quand même 10 ans. Je n'arriverai pas à être sérieux jusqu'au bout, et on a commencé avec des sourires, donc on va continuer avec des sourires. Alors, donc, j'ai 10 ans. Je suis dans ma cour de récréation, je joue aux billes, et je m'amuse beaucoup à jouer aux billes. Alors, mes billes, vous les voyez, c'est pas... Enfin, quoique j'ai des billes aussi, des vraies billes, mais sinon, c'est des salades, c'est des œufs, etc. Alors, quand on joue aux billes dans une cour de récréation et qu'on a 10 ans, il y en a bien qui arrive et qui dit « Oh tiens, t'as l'air de t'amuser avec tes billes, est-ce que je peux jouer avec toi ?» Alors oui, on peut jouer avec moi. On peut jouer avec moi en faisant des expériences avec moi. Et pour avoir des expériences, pour savoir comment les faire, quoi les faire, où les faire, etc., on peut toujours m'envoyer un email à hthis@compuserve.com. Je le remarquerai tout à l'heure, ça sera plus facile. Donc, je réponds toujours. Hein. Si quelqu'un me dit « je me passionne pour le chocolat, je voudrais faire des expériences sur le chocolat », des expériences simples, c'est-à-dire qui ne nécessitent pas un matériel compliqué, on y viendra tout à l'heure, et ben, je lui donne quelques-unes des questions, des innombrables questions qui se posent à propos de la cuisine. Donc on peut venir jouer avec moi, et je m'amuse beaucoup, donc j'espère que vous amuserez aussi. J'avais prévu en venant de parler de tout à fait autre chose pour commencer. Là je suis tombé sur un sel, alors je vais essayer de cacher la marque. Il y a marqué « particulièrement soluble », comme s'il y avait des sels qui étaient insolubles, alors je veux dire des sels de cuisine, j'entends. Hein. « Doté d'une saveur sans amertume », ça c'est pas mal non plus, hein, quand on y réfléchit bien. « Ce sel possède des vertus diététiques », ouais, c'est celle de vous foutre, bref, « et des ressources ioniques reconnues scientifiquement ». Alors, selon les analyses du laboratoire de la faculté de pharmacie de, je dirais pas la ville, ce sel contient peu de sodium. suit une liste de compositions. On nous prend pour des idiots. Hein. Bon, là, je le dis en rigolant, mais je suis profondément ému par ce genre de choses. Je trouve qu'on vit dans une société indécente. Indécente parce qu'on l'est tous aussi un peu. C'est-à-dire que je le suis aussi un peu indécent. Hein. Mais... quand même, alors, je ne répondrai à aucune question de nutrition ou diététique, je vous préviens tout de suite. Hein. Comment faire pour maigrir, ce n'est pas mon propos. Hein. Moi, c'est mangeons bien, nous mourrons gras. D'autre part, je fais ainsi parce que éternellement, il y a toujours cette question de diététique ou de nutrition. Et je réponds invariablement, faites-vous des barbecues? Tout le monde répond oui. Comment faites-vous? Ben, on fait des braises, on met une grille par-dessus, on met la viande. Et alors, à ce moment-là, je dis, ben, vous avez mangé en une fois plus de benzopyrène très cancérogène que vous n'en respirez en un an à Paris. Alors, arrêtons de penser nutrition et diététique, ou alors soyons un peu citoyens, quoi. Et ça a des conséquences très importantes. Ça veut dire aussi que si on s'ingurgite des benzopyrènes à la louche, eh ben, il ne faut pas non plus aller demander à certaines sociétés pharmaceutiques, agroalimentaires, etc., de faire des prouesses sur des molécules qui sont moins dangereuses et qu'on voudrait trouver en partie par 10 millionièmes de milliards, quoi. Ça, c'est indécent. Alors, les combats, je vais laisser tomber. Je ne vais pas laisser tomber complètement. Un deuxième combat, c'est... Il y a cette théorie des quatre saveurs, je veux m'en débarrasser. On dit, il y a quatre saveurs... Alors, les saveurs, c'est ce qu'on sent avec les papilles, hein. On dit il y a quatre saveurs, alors il y en a qui disent des quatre saveurs essentielles, d'autres qui disent quatre saveurs de base, et on dit éternellement c'est salé, sucré, acide, amer. Alors j'amène toujours mon petit cachou, c'est de la publicité, ma réglisse. La réglisse sans sucre ajouté n'est ni sucrée, ni acide, ni amer, elle est quoi? Ben, elle est réglisse. Alors arrêtons des quatre saveurs et pensons que ce monde des saveurs est un monde qui est ouvert à nous, complètement ouvert à nous, et qu'il y a beaucoup à explorer. Voilà, assez pour les petits combats. On m'a dit aussi que le public était très intelligent, ça je suis sûr que c'est vrai, et parfois pas au fait de la science. Alors, je vais essayer de prononcer des mots de moins de 3 syllabes, parce qu'après ça s'appelle des gros mots. Ces mots de 3 syllabes, ils vont tenir presque en une chose. Le plus compliqué, c'est molécules. Alors, les chimistes... Alors, j'ai un ami qui s'appelle mathématicien qui s'appelle Didier Nordon, qui fait les chroniques de le Docteur dans Pour la Science. Et Didier Nordon est un gars intelligent, mathématicien, donc il y a beaucoup de mépris pour les chimistes, bien évidemment. Non, c'est pas vrai. Mais avant de me rencontrer, il avait écrit un livre très beau qui s'appelait L'intelligence gaspillée. Et dedans, il avait fait un dictionnaire des idées reçues à Flaubert et il mettait chimiste 2 points, tous cons. Peut-être, mais en tout cas, les chimistes, ils voient plus que les mathématiciens d'une certaine façon. C'est-à-dire que si je prends ça, et que je vais dans la rue, je dis à quelqu'un, qu'est-ce que vous voyez? Et bien, il me dit, invariablement, je vois de l'eau. Oui, mais l'eau, c'est quoi? Et bien, le chimiste, il voit aussi de l'eau, donc déjà, il est normal. Mais en plus, il voit la chose suivante. Avec les yeux de l'esprit, il voit que son verre d'eau ou sa bouteille d'eau, c'est plein de petits machins qui s'appellent des molécules. Et ces petits machins, alors, ça bouge tout le temps. Hein, c'est-à-dire que même si on ne bouge pas l'eau, les molécules sont en train de bouger. Et en gros, plus on chauffe, plus elles vont vite. Alors, évidemment, plus on refroidit, plus elles vont lentement. Donc, au bout d'un moment, elles s'arrêtent sur place, elles tiennent les copains. Et là, en se tenant beaucoup, ça fait ce qu'on appelle un glaçon. Ce n'est pas très dur. Là, moléculeux, 4 syllabes, j'ai dépassé. Hein. Alors, ça, c'est l'eau. Évidemment, il peut y avoir des molécules de plusieurs sortes. Donc, en voilà des rouges. Alors, je secoue un petit peu. Et bien, ça, c'est rien d'autre que pour moi. Enfin, on va imaginer que c'est un blanc d'œuf. C'est-à-dire qu'il y a 90% d'eau et 10% de ce qu'on appelle des protéines. Alors, des protéines sont des molécules. Et avec ça, on devrait avoir assez. Alors évidemment, ce n'est pas des billes. Hein. Par exemple, les molécules de protéines... Ah oui, alors, comment expliquer ce que c'est qu'une molécule de protéines à quelqu'un qui ne le saurait pas? Il y a une chose que j'ai volée à Einstein. Les bonnes idées, je les vole facilement, mais je les attribue aussi à ceux qui me les ont données. Einstein a découvert la relativité générale en se demandant qu'est-ce que je verrais si j'étais assis sur une fusée qui allait à la vitesse de la lumière. Alors, transposons en chimie. Eh bien, qu'est-ce qui m'arriverait si j'étais une molécule au milieu de ce truc-là? Eh bien, ça, c'est des questions qui aident à comprendre. Et Marc Julia, qui est un très, très grand chimiste français à l'École normale, Marc Julia a ceci. Je ne sais pas s'il le sait, je ne vais pas te poser la question, mais il est toujours en train d'être la molécule ou de la voir se transformer. Alors, la protéine, j'y reviens. Ben, si je suis un long fil, hein, imaginez un long fil, et si je suis replié sur moi-même, eh ben, ça peut s'appeler une protéine dans certains cas. Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais il faut faire attention à une chose, c'est qu'on peut décrire les phénomènes à ce que j'appelle au premier ordre. C'est-à-dire, au premier ordre, cette eau, elle est liquide et transparente. Au deuxième ordre, il se passe des choses plus fines. Et puis au troisième encore. Alors, on peut décider de s'arrêter au moment où on veut. Et c'est comme ça que la science se fait, j'ai l'impression. Bon, alors maintenant que j'ai fait cette introduction... Ah oui, alors, comme c'est une université, il s'agit d'enseigner... Alors, un de mes petits combats du genre sel, cachou, etc., c'est, eh ben, ce combat, dans le fond, c'est un très très vieux combat. J'ai trouvé avant-hier une citation d'Aristophane qui le résume, qui dit « Enseigner, ce n'est pas remplir une cruche, c'est allumer un brasier ». Ça me plaît beaucoup, d'autant plus que je n'ai jamais réussi à recevoir une information d'un professeur. En revanche, dans les livres, il y a beaucoup de choses. Je ne dis pas que les professeurs sont inutiles. Hein. Je dis que le professeur est extrêmement utile pour allumer le brasier. Ça, c'est important. Parce que si vous demandez à quelqu'un d'apprendre la mécanique quantique et qu'il est mollement allumé, eh bien, il va s'éteindre facilement. Alors que s'il a un grand feu intérieur, à ce moment-là, il ira se taper les calculs compliqués. Bon, alors maintenant, donc il faut que j'allume un brasier. Comment est-ce que je vais faire ? La seule façon que je puisse faire, dans le fond, c'est d'être un peu moi-même. Et comme je ne suis pas généreux, je me force à l'être. Je ne suis fainéant, donc je me force à être travailleur. Je ne suis pas généreux, je me force à l'être. Alors, la façon pour moi la plus généreuse d'être, c'est de vous donner tout ce que j'ai. Et tout ce que j'ai, ça tient en peu de choses, ça tient en 6 conseils. Alors, 6 conseils, il y en a 4 que j'ai volés à Faraday. Faraday, il y a une histoire compliquée, c'est très moral, c'est formidable, c'était un des plus grands savants de tous les temps. Faraday a appliqué 4 conseils pendant toute sa vie à la lettre, puisqu'il était orphelin ou quasi. Ces 4 conseils, c'était 1. Avoir toujours sur soi un petit calepin pour prendre des notes. 2. Vérifier ce qu'on vous dit. 3. Ne pas généraliser hâtivement. 4. Avoir des collaborations. 5. Avoir des correspondances. Et 6. Éviter les controverses. Alors, je suis désolé, avec les combats, les controverses, c'est loupé, mais je m'efforce. Hein. Donc, je vous ai donné ces 4 conseils. Faraday les a appliqués. C'est devenu Faraday grâce à ces 4 conseils. Donc, si vous avez des enfants, n'hésitez pas, transmettez-leur. Maintenant, les 2 conseils supplémentaires. Alors, mon père est un psychanalyste spécialiste de la petite enfance. Et il m'a toujours dit, Hervé, labor improbus omnia vincit. Ça veut dire un travail acharné vient à bout de tout. Je crois qu'il a à peu près raison. Et puis, le dernier, c'est parce que je travaillais. La gastronomie moléculaire a été définie avec un physicien anglais, un très grand physicien qui s'appelait Nicolas Curti, qui est mort en novembre 1999. Et on a fait tout ça ensemble pendant 10 ans, tous les jours. Et Nicolas est mort en me laissant un conseil que je vous donne, que je vous livre. C'est Hervé, fais des expériences simples. Faisons des expériences simples. Bien sûr, de temps en temps, on aura besoin de faire des expériences compliquées. Mais commençons par faire des expériences simples. Alors, je vous ai donné tout ce que j'avais, donc à la limite, je pourrais repartir maintenant. Mais les œufs risqueraient de pourrir, la salade aussi, etc. Bon, alors, et puis il faut quand même que je vous explique ce que je fais, qu'est-ce que c'est cette gastronomie moléculaire qui est un titre pompeux, hein, 1000 excuses. Alors, la gastronomie moléculaire, c'est quoi en substance ? Ben, c'est la chose suivante. Ça tient en 5 points, donc c'est vite fait. Ah ben non. Où sont ces 5 points ? J'ai quelque chose à faire ou... Voilà. Alors, c'est 1. Prendre des livres de cuisine, anciens ou modernes, français, étrangers, et y chercher des phrases bizarres. On va y venir. 2. C'est comprendre ce qu'on fait en cuisine, parce que si on comprend ce qu'on fait, on le fera mieux. Hein. Dans le fond, quand on vous dit battez des blancs en neige, eh ben, qu'est-ce que je fais ? Ben, je prends un fouet, je bats des blancs en neige, mais est-ce que je ne peux pas réfléchir un peu pour mieux battre ? Ensuite, c'est introduire des ustensiles, méthodes et ingrédients nouveaux. On y viendra en fin de présentation. Inventer des plats nouveaux, ça, c'est la moindre des choses, parce que Brillat Savarin a dit qu'un plat nouveau fait plus pour le bonheur de l'humanité que la découverte d'une étoile, pardon aux astronomes. Et puis d'abord, c'est Brillat Savarin qui l'a dit, c'est pas moi. Hein. C'est lâche, ça. Et puis, utiliser la cuisine pour faire comprendre que la physique et la chimie, c'est formidable. Ça, je le crois absolument, donc c'est vraiment dans le programme. Alors maintenant, voyons un exemple de comment ça s'applique. Alors, ça s'applique de la façon suivante. Pardon ? D'éteindre la salle, c'est possible ? Je vous le lis, alors comme... voilà. Alors, ce texte... Trop petit ? Je peux faire quelque chose ? Ben, je vous le lis, c'est pas grave. Donc ce texte est pris dans l'art de la cuisine française de Carême, qui est sans doute un des plus grands cuisiniers de tous les temps, et il explique comment faire le pot-au-feu. Alors le pot-au-feu, c'est très intéressant parce que c'est un des plats les plus anciens de la cuisine, mais pas française, mondiale. Hein. On prend de la viande, de la bidoche, et on la met dans l'eau, et on chauffe. Donc on se dit que normalement, on sait faire. Hein. Il y a eu des millénaires de pot-au-feu. Alors, ce qui est rigolo quand même, c'est que Donc, 1847, Carême, le grand cuisinier, le plus grand cuisinier de tous les temps, dit-on en France, écrit donc « Dans le ménage de l'artisan, le pot-au-feu, sa nourriture, etc. » Bon, c'est la femme qui soigne la marmite nutritive, ben, pas forcément aujourd'hui, et sans avoir la moindre notion de chimie, à 1847, c'était vrai. Elle a appris de sa mère la manière de soigner le pot-au-feu. À mon avis, il se trompe, à mon avis, c'était plutôt de sa grand-mère. Parce qu'on reçoit très difficilement les conseils de quelqu'un qui est la génération d'avant, mais beaucoup plus facilement les conseils de la génération d'encore avant. D'où la nécessité de réunir les trois générations ensemble, en général. Bon, alors bref, elle pose la viande dans une marmite en terre. Alors, à l'époque, il y avait quand même du métal. Pourquoi la terre? Est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est pas mieux? Elle la place au coin du feu, sans s'en douter, elle va faire une action toute chimique, ça il a bien raison. Sa marmite s'échauffe lentement, c'est vrai, parce que s'il y a un gros volume, surtout avec de la terre, ça ne va pas très vite. Alors, question, est-ce qu'avec du fer, ça irait plus vite et est-ce que ça serait meilleur? Ça, c'est une question ouverte. La chaleur de l'eau s'élève graduellement et dilate du bœuf les fibres musculaires en dissolvant la matière généreuse qui est interposée. Alors, ça c'est compliqué, mais imaginons que la viande... Voilà mon biceps, c'est de la viande. Hein. Si je le coupe, là, crac, je le mets, c'est un morceau de viande. Cette viande, elle est faite de petits sacs allongés qui s'appellent les cellules. Ces cellules contiennent en gros du blanc d'œuf. Donc, quand on cuit du blanc d'œuf, il coagule. Et tout va très bien. Donc la viande durcit un peu. Mais c'est vrai qu'autour de ces cellules, autour de ces petits sacs, il y a une gaine de ce qu'on appelle le collagène. Le collagène, on s'en sert pour soutenir la peau, hein, en produits cosmétiques. C'est donc une protéine. Et ça empêche les petits sacs de crever quand les protéines se contractent, quand le biceps fait ça. Hein. Donc là, il a raison en quelque sorte. Mais quand il dit ça dilate les fibres musculaires, alors là, ça devient douteux. Hein. Il faudrait le vérifier. Alors ensuite, le pot-au-feu s'écume doucement. Est-ce que c'est vrai? Souvent, les cuisiniers enlèvent deux fois l'écume. Il y a des choses à regarder. Alors ensuite, l'osmazome. Ah, l'osmazome n'existe pas. Hein. Les chimistes qui travaillaient à l'époque de Brillat-Savarin avaient cru identifier, notamment le baron Thénard, un espèce de principe sapide des viandes qu'ils avaient appelé l'osmazome. Il se trouve que l'osmazome, c'est un mélange de tas de choses. Et donc, que les cuisiniers qui se sont fondés sur l'osmazome, eh ben, ils ont été un peu handicapés. C'est-à-dire que si vous cuisinez, imaginons qu'une métaphore, cuisiner, ça veut dire marcher vite. Hein. Si vous avez des boulets aux pieds, un, l'osmazome, deux, les fibres qui se dilatent, etc., vous n'avancez plus. D'où la nécessité, à mon avis, d'expurger tous les dictons faux des livres de cuisine du siècle prochain. Si on veut faire progresser la cuisine, voilà un moyen. Bon, et puis ensuite, il continue, l'albumine, ça ne veut rien dire, parce qu'à l'époque, pour eux, c'était toutes les protéines plus d'autres choses, donc ça ne recouvrait pas notre catégorie, etc., etc. Donc, vous voyez, rien qu'un texte comme ça, une page prise au hasard dans Carême, hein, le plus simple, eh bien, pour ça, il y en a pour, mettons, 5 ans de travail pour savoir si tout est vrai, si tout est faux, si comment c'est vrai, si comment c'est faux, si comment on peut mieux faire, etc. Donc, c'est quelque chose de passionnant. Une expérience, d'ailleurs... il est dit par les chefs que le bouillon, on doit toujours mettre la viande dans l'eau froide, parce que, disent-ils, si on la mettait dans l'eau bouillante, ça coagulerait la surface, et si ça coagule la surface, les sucs ou les jus ne peuvent plus sortir. Je conclus que si je mets de la viande dans l'eau bouillante, elle doit contenir plus de choses que si je la mets dans l'eau froide. Donc, elle doit peser plus lourd. Alors, pas de chance. Quand on fait l'expérience, on a exactement l'inverse. C'est-à-dire que la viande qui perd le plus, c'est la viande qu'on met dans l'eau bouillante. Et l'autre, c'est dans l'eau froide. Et de toute façon, finalement, le bouillon qui doit cuire entre 2 et 6 heures, est-il dit dans les livres de cuisine, eh ben, au gramme près, elle finit avec la même masse. Alors, on peut raffiner l'expérience, mais la conclusion, c'est que ce dicton est complètement faux. Qu'on mette la viande dans l'eau chaude ou dans l'eau froide, c'est exactement pareil. Ah, on va me dire, et le goût? Ah, le goût. Ben, pas de chance aussi, le goût en aveugle, en test triangulaire, personne ne reconnaît. Une précision pour ceux qui veulent s'amuser à tester des choses ainsi, l'aveugle ne suffit pas. Le bon test consiste à donner 3 assiettes, dont 2 sont identiques et la troisième différente, et le faire plusieurs fois. Et on demande aux personnes qui ne savent rien de ce qu'il y a dedans, dites-nous lesquelles sont identiques et lesquelles sont différentes. On a des surprises. Hein. Ceux qui disent « Ah, j'ai un palais extraordinaire, je reconnais les autres fermes », eh bien, ils ont des surprises. Alors, mais ça, il y en a, hein, et ça arrive, hein, je connais des gens qui reconnaissent, mais on n'est pas tous aussi bons qu'on voudrait l'être. Alors, ce programme de la gastronomie moléculaire, il est dramatique parce que un jour, je me suis amusé à commencer à le dresser, c'est-à-dire à mettre au net ce que je marque dans mes cahiers éternellement. Alors j'ai commencé par ail, oignon, et puis ensuite j'en ai là, chocolat, voilà. Le chocolat blanc, un qui est rigolo. Voilà, il faudrait reprendre les tests de massage du chocolat. Quand on met du chocolat fondu et qu'on met un liquide, ça prend en masse. Alors, il faudrait bien le regarder. Bref, tous les gestes de la cuisine sont à regarder. J'en ai à peu près 125 pages. Et je me suis arrêté il y a longtemps. Hein. Donc, c'est dramatique, j'ai besoin de votre aide. Donc, si vous-même ou si vous avez des étudiants que vous voulez faire travailler sur de la science expérimentale, si vous êtes instituteur et que vous voulez faire de la science dans les écoles, faites de la cuisine. Il n'y a pas besoin de matériel très compliqué. Alors là, on va en faire un. Tiens, il a été écrit par des Japonais que la salade, en voilà une fragile, ne supporte pas le sel. C'est-à-dire que si on met de la salade avec du sel, eh bien, va se flétrir. On verra bien dans 50 minutes, enfin maintenant plus que 40, si c'est flétri. Bon, continuons. Qu'est-ce que je ne vous ai pas montré? Oui. Continuons par une question importante. Je vous ai dit que le bouillon, c'était le plat le plus classique de la cuisine française, et je pense que je n'ai pas complètement tort, mais ce n'est pas forcément le plus simple. Parce que le bouillon, il y a quand même de la viande, et la viande, je vous ai dit, il y a le collagène, les cellules, tout ça, c'est compliqué. L'œuf, lui... Alors, l'œuf, j'adore l'œuf, enfin, pas gustativement, enfin, j'aime bien l'œuf, mais je veux dire, l'œuf est un matériel d'expérimentation extraordinaire, parce que l'œuf, dans le fond, au moins pour le blanc, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des molécules d'eau et des molécules de protéines. Donc, c'est très simple. Hein. C'est un système chimique très simple. Et déjà, ça coagule. Dans le fond, c'est un miracle. Vous avez un blanc d'œuf. C'est quelque chose de liquide et de transparent et d'un peu jaunâtre, d'où le nom de blanc d'œuf, sans doute. Hein. Ce machin-là, vous le chauffez et il devient blanc, opaque et dur. Ça vaut la transformation de l'eau en vin. Enfin, c'est... Non, mais je blasphème un peu, je suis désolé pour ceux qui sont croyants, mais c'est vraiment un phénomène miraculeux. Et ce phénomène miraculeux, nous passons tous les jours devant. Et pourquoi l'œuf cuit-il? Alors là, on s'arrête deux minutes, et on se dit, mais oui, pourquoi cuit-il? Et ce jour-là, quand on se dit pourquoi cuit-il, ben on ne peut plus manger un œuf sans comprendre. Donc il faut comprendre, donc on va faire des expériences pour s'amuser à comprendre. Alors, on voudrait faire un œuf dur. Évidemment, qui préfère les œufs durs très mauvais? Je ne vois pas de main. Donc, qui voudrait un œuf dur parfait? Ah, pas tout le monde, hein? Est-ce qu'il y en a qui ne voudraient pas des œufs durs parfaits? Oui? Pourquoi? Ah, j'ai pas dit pas trop dur, j'ai dit parfait. Parfaitement cuit, parfaitement réalisé, hein? Donc, il n'y avait qu'une main et cette main s'est rabaissée. Donc, nous voudrions faire un œuf dur parfait. Ben, comment est-ce qu'on fait? Alors, le jaune étant plus compliqué que le blanc, on voudrait d'abord faire... Alors, non, il faut... Alors, l'œuf dur parfait. Je vous dis rapidement que c'est une question idiote, parce qu'évidemment, l'œuf dur parfait de madame n'est pas le même que le mien. Mais c'est vrai que si je sais faire le mien en connaissance de cause, en changeant les paramètres, je saurais faire le sien. Alors, j'ai rencontré... Alors, moi, je vous dis mon œuf dur parfait. La coquille ne doit pas se fendre à la cuisson. Elle doit s'écaler quand l'œuf est cuit, facilement, sans enlever des morceaux de chair. Le blanc doit être savoureux. Il doit être cuit, mais pas caoutchouteux. Le jaune doit être parfaitement centré. Il ne doit pas être cerné de vert. Il ne doit pas y avoir d'odeur de soufre. Et le jaune ne doit pas être granuleux et sableux, en quelque sorte. Et bien, tout ça, c'est une demi-journée de travail à tous ensemble. Donc, on va pas y passer une demi-journée. On va poser quelques questions. Une question très simple pour commencer. Comment centrer le jaune d'œuf? Ben déjà, ça c'est compliqué parce que dans les livres de cuisine, ils ne savent pas faire, il n'y a pas de conseil. Il y en a certains qui disent vous le mettez dans l'eau froide, d'autres qui disent vous le mettez dans l'eau chaude. Alors finalement, qu'est-ce qu'on fait? Alors, soyons simples. Quel est le conseil que m'a donné Nicolas? Nicolas m'a dit, Hervé, fais des expériences simples. J'ai deux expériences possibles. La première, je donne cet œuf à mon frère qui est radiologue et il creuse le trou de la sécu, mais il me dit peut-être... Mais il me dit peut-être où est le jaune. Et après, je ne sais pas ce que j'en ferai. Donc, je ne suis pas plus malin. C'est-à-dire que, imaginez que j'ai fait l'expérience et que je vous montre, par projection, une radiographie de cet œuf. J'aurais l'air très savant. Imaginez que ce soit même moi qui l'ai faite. J'aurais l'air très savant. Je m'en fiche d'être très savant. Moi, ce que je veux, c'est résoudre ce problème. C'est beaucoup plus important qu'être très savant. Donc, cette méthode est mauvaise. Alors, deuxième méthode, c'est faire une expérience simple. Bon, L'expérience simple, dans le fond, c'est simplissime. C'est qu'est-ce qui me gêne pour voir ce jaune ? C'est ma coquille. Pourquoi me gêne-t-elle ? Elle est transparente. Où trouver une coquille qui soit transparente ? Ben, la voilà. Donc, en pratique, on fait la chose suivante. On casse l'œuf. Ah, j'ai fait un geste qui date du Moyen-Âge. Est-ce que c'est le meilleur ? Je sais pas. Je casse mon œuf. Je récupère... Voilà, on va essayer de ne pas faire de tâches. C'est loupé. Alors, je récupère le jaune d'un côté. Alors, pour que l'expérience fonctionne bien, on va mettre plusieurs blancs, hein, on verra mieux. Ah, il y a un germe, ça c'est très amusant. On l'a pas à tous les coups. Ah, vous voyez que je ne m'ennuie pas quand je fais ça, parce que... Non, mais je suis en train de voir des bulles. Ces bulles, elles sont à la surface. Il y a les bulles qui sont accolées les unes aux autres. Et puis il y en a des grosses et des petites. Mais pourquoi il y a tout ça ? Alors je me pose des questions, c'est-à-dire j'ai l'air de parler, mais en fait j'observe mon œuf. Hein. C'est très très important. Voilà, on en a assez. Et on a le blanc. Alors, avant de reconstituer, on fait un vote. Tiens, je prends un œuf, quel qu'il soit. Sans doute il y a un jaune, peut-être qu'il n'y en a pas, peut-être qu'il y en a deux, ça arrive. Mais pour des raisons de symétrie, s'il y en a un, il va être sur l'axe vertical. Donc il peut être en haut, au milieu ou en bas. Enfin, plutôt en haut, plutôt au milieu, plutôt en bas. Que ceux qui pensent aux calases, qui sont des membranes, etc., oublient ça pour l'instant. On n'en a pas besoin. Hein. Alors, un vote. Qui vote pour... Alors, réfléchissez une seconde. Qui vote pour le jaune être au milieu ? Ah, il y a un bon peu. Qui vote pour il est en bas ? Ah, c'est plus ça. Qui vote pour il est en haut ? Ah, il y en a quand même quelques-uns. Qui vote pour je ne sais pas ? Ah, bravo, on les applaudit. Ceux-là, ils sont formidables. Alors, quand on ne sait pas, on fait quoi ? On fait une expérience simple. Alors, voilà l'expérience simple. Vous avez vu, hein, c'est pas très spectaculaire. Hein. Le jaune est en bas, ils ont gagné. Eh ben non, il est remonté. Alors, est-ce que j'ai de quoi le... Enfin, c'est pas propre, mais on ne mangera pas. Donc, ce qui est rigolo, quand même, c'est que ça monte très, très, très lentement. Mais ça veut dire la chose suivante, c'est que si j'ai un œuf comme ça, et que je le tiens debout à peu près le même temps, il y a les membranes en plus, mais oublions, et bien là, je peux vous dire que le jaune, il est en haut. Comment le vérifier ? Ben, je le mets dans une casserole debout, je le cuis, et puis je m'aperçois qu'il est décentré. Donc, alors, évidemment, d'habitude, ce n'est pas ainsi qu'on fait. On pose l'œuf sur le côté, et puis il cuit ainsi, mais il cuit sans bouger. Alors, le jaune est encore en train de monter, donc ça sera décentré. Comment faire pour centrer ? Ben, il faut le tourner pendant la cuisson. C'est-à-dire qu'on... On le tourne comme ça, et ça va tout seul. Alors, vous pourrez tous faire l'expérience en rentrant chez vous, vous aurez un jaune d'œuf parfaitement centré. Est-ce qu'on a fait de la chimie ? Qui vote pour « on a fait de la chimie » ? Ah, quand même, hein ? Il y en a deux, trois. Qui vote pour « on a fait de la cuisine » ? Qui vote pour on a fait de la physique, tiens, voilà. Ah ouais, quand même. Bon, dans le fond, on s'en fiche de ce qu'on fait. On veut se... Non, mais pas de ce qu'on fait. On se fiche de du type d'activité qu'on fait. Et c'est ça où il y a une spécificité de la gastronomie moléculaire, c'est que je pose des questions culinaires. Si j'ai besoin de mécanique quantique, je prendrai la mécanique quantique. Mais si j'ai besoin de la chimie organique, je prendrai la chimie organique. Si j'ai besoin de la mécanique, je prendrai la mécanique. Donc cette activité est un peu pluridisciplinaire. Et dans le fond, elle m'amuse. Voilà. Alors maintenant qu'on s'est centré le jaune d'œuf, on est sur la voie de l'œuf dur parfait, mais on est bien loin d'y arriver, parce que quand même, on ne sait toujours pas pourquoi l'œuf cuit. Hein. Et ça, c'est bien ennuyeux. Alors on va faire cuire un œuf. On va faire cuire le blanc, hein, parce que ça suffira. Le blanc est ici. Voilà, un blanc. Pendant ce temps-là, on va se poser des tas de questions. On va se poser des tas de questions. Ah oui, le blanc en neige. Ça va prendre trop de temps, le blanc en neige. Je voulais faire un concours. Non, on ne peut pas faire le concours de blanc en neige. Alors, on fera une autre fois. Des tas de questions. Par exemple, on voudrait savoir pourquoi ça cuit. Alors, dans le fond, il y a une théorie qui était à peu près la suivante. C'est, je vais le mettre comme ça. Voilà. On disait donc les protéines sont des trucs repliés sur eux-mêmes. Je vous ai dit c'était des fils, mais en fait c'est des colliers de perles. Chaque perle s'appelle un acide aminé. Hein. Alors les acides aminés, ce n'est pas des boules, hein, c'est des groupes d'atomes qui ont des réactivités chimiques particulières, mais enfin, c'est replié sur soi-même, voilà, c'est pareil. Pourquoi c'est replié sur soi-même? C'est replié sur soi-même parce qu'au centre, il y a des acides aminés qui n'aiment pas l'eau. Enfin, je le dis en des termes simples, hein, mais peu importe, on peut le dire en des termes simples. Et puis, ça n'aime pas l'eau. Donc, si les parties qui aiment l'eau se mettent autour, ben, là, elles sont tranquilles, tout va très bien. Ça peut rester dans l'eau. Alors, la théorie veut que, quand on chauffe les molécules, je vous ai dit, elles vont de plus en plus vite, donc crac, 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 elles courent, et puis elles se cognent contre une paroi ou contre une autre molécule, donc elles gigotent et elles se déroulent. C'est ce que j'ai voulu représenter là. Et alors, ce qu'on trouvait comme théorie dans le temps, c'est que les protéines déroulées, on voit là deux, eh bien, les parties qui n'aiment pas l'eau, clac, clac, s'attachent. Et donc, en s'attachant, toutes les protéines s'attachant dans l'ensemble, elles piègent les molécules d'eau, et ça fait la cuisson. Ça, c'est possible, et ça veut dire que les forces sont assez faibles, c'est-à-dire que comme les forces qui tiennent de l'huile ensemble, au-dessus de, vous prenez un verre d'eau, vous y mettez de l'huile, ben, l'huile va se regrouper, ça s'appelle les forces hydrophobes. C'est un gros mot. Je suis absolument confus, vous m'en excusez, je le dirai plus. Enfin, si, j'en aurais besoin. Bon, ça chauffe ça ou ça chauffe pas? Oui, ça chauffe. Bon, donc on a nos forces hydrophobes, c'est ça la théorie. Alors maintenant, quand même, on sait que si on fouette, mais si on fouette avec ça par exemple, hein, si on fouette des forces hydrophobes, de l'huile sur de l'eau, ben, ça se divise en petites gouttelettes, ça se fragmente. Donc ça ne suffit pas comme théorie, ce n'est pas une théorie qui est juste. Alors récemment, je discutais avec un patron de l'industrie agroalimentaire qui me disait, mais dans le fond, ça vous sert à quoi d'avoir des théories justes? C'est pas une question idiote, parce que dans le fond, d'abord, ça sert à connaître. Ça, c'est sûr, dans une cas d'université, c'est important. Mais ça sert aussi, dans ce cas précis, à mieux cuisiner, et on verra comment. Alors maintenant, pour ceux qui ne voient pas dans ma poêle, ça blanchit. Si on regarde bien, je ne sais pas si on le voit, il y a une petite vapeur qui s'en va. Ah, une vapeur, c'est une vapeur de quoi? Ben, soyons simples, on met un morceau de verre froid dans cette fumée. La vapeur, c'est des molécules qui sont très séparées, qu'on ne devrait pas voir. Donc là, ça veut dire que, alors voilà, il y a une espèce de petite buée, je mets mon doigt, c'est une vraie buée, je lèche, ça n'a pas de goût, pas d'odeur, pas de saveur, c'est de l'eau. Hein. On pourrait la caractériser mieux. Hein. Donc je suis en train de perdre un peu d'eau quand je cuis. Ça, c'est très ennuyeux, parce que je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait l'expérience de sécher complètement un blanc d'œuf en enlevant toute son eau. Il reste une espèce de petite résine toute dure. L'eau, c'est la tendreté des aliments. D'où la grande importance, quand quelqu'un cuisine, de se dire « je dois garder toute l'eau des aliments hein ». Autrement dit, quand on cuit à 100 degrés, ce n'est pas bon du tout, parce qu'à 100 degrés, l'eau s'en va. Hein. D'où le fait que la viande cuite à l'eau bouillante soit dure, alors qu'à l'eau frémissante, elle est tendre. Oui, mais l'eau frémissante, c'est combien de degrés? Je laisse la question en suspens. Non, parce que sinon, on en a pour 3 jours. Alors, c'est blanc. C'est blanc, c'est cuit, c'est même bien cuit. Donc, on a le droit de pouvoir le considérer comme ça. Hop. Et puis, ce machin-là, alors, j'ai perdu un peu d'eau. Alors, mais ce machin-là, c'est donc pas... Alors, je remets un petit peu d'eau si je veux arriver à refaire mon blanc d'œuf liquide. Voilà. J'en ai mis un peu trop, mais c'est pas grave. Et puis, je touille. Ben, je peux vous dire que j'ai beau touiller, j'arriverai pas à récupérer mon blanc d'œuf liquide comme un œuf frais. Autrement dit, mes forces hydrophobes ne sont pas suffisantes. Alors, je vais aller rapidement sur les types de forces. Enfin, pour les chimistes, ils savent qu'il y a plein de types, pas plein de types de forces, il y a 5 ou 6 types de forces différentes, mais il y en a particulièrement certaines qui s'appellent les ponts disulfures. Ponts disulfures, ça veut dire qu'il y a 2 atomes de soufre sur 2 molécules différentes qui peuvent s'attacher entre elles. Hein. Et puis, il y a les forces chimiques classiques. Donc, la question, c'est est-ce que c'est des ponts disulfures ou pas? Ben, une façon simple de voir si c'est ponts disulfures, c'est de prendre un composé qui va couper les ponts disulfures. Donc voilà, j'ai du borohydrure de potassium, là, aujourd'hui. Alors, c'est un composé très toxique, hein, ne mettez pas ça dans vos aliments. Ah non, pardon. Est-ce que tout le monde me promet qu'il n'ira pas dire, en dehors de cet amphithéâtre, « Oui, Hervétis, c'est l'homme qui met des composés toxiques dans les aliments. » Est-ce que quelqu'un refuse de promettre? Parce que sinon, je ne fais pas l'expérience. Non, personne ne refuse. Alors, je fais l'expérience. Donc, il s'agit simplement de mettre un peu de ce borohydrure. Avec le borohydrure de sodium, ça marche pareil. Hein. Voilà. Et puis ensuite, alors, c'est pas stable dans l'eau. Hein. Ça fait un gaz, mais c'est pas grave. On touille vaguement. Et déjà, j'ai une espèce de lait qui se forme. J'ai des bulles parce que ça fait un gaz. Hein. Ça se désagrège. Tout va très bien. Je ne sais pas si on le voit bien. Je le laisse sur le bord de la table, ça va faire un blanc en neige, Soit dit en passant, c'est vachement pratique, hein. On n'a pas besoin de fouetter. Et quand ce blanc en neige aura retombé, dans 2 heures ou 3 heures, on récupère un blanc d'œuf liquide, donc nous avons décuit l'œuf. Alors, ça sert à quoi ? Ben, ça sert à comprendre, ça sert à montrer que le modèle précédent était faux, c'est donc les ponts disulfure qui tiennent les protéines essentiellement. Ça sert aussi à se dire, ouais, j'ai des œufs, celui-là par exemple, il est contaminé par des salmonelles. Je le cuis, je le décontamine, mais je ne peux plus m'en servir comme un œuf frais. Je le décuis, à ce moment-là, il est décontaminé, je peux m'en servir. D'accord, mais le borhydrure ne marche pas. Ce n'est pas bien grave, la vitamine C aussi est un composé réducteur qui a le même type de propriété, et si on ajuste bien l'acidité, on peut arriver au même résultat. On pourrait continuer sur cette voie-là. Ça, c'est de la science des aliments. J'aime beaucoup ça, mais ça ne me sert pas en cuisine pour l'instant, véritablement, à moins d'être de très mauvaise foi. Hein. Je suis d'assez mauvaise foi. Alors maintenant, on a décuit. Ah oui, alors, un peu de pathos. J'ai encore un peu de temps ? Bon, un peu de pathos. Vous êtes chez vous un dimanche soir, vous n'avez pas payé la note de gaz ou d'électricité, vous n'avez plus d'allumettes, plus de briquets, et il vous reste un blanc d'œuf. Ça tombe bien. Là, ça chauffe. Hein. Il vous reste un blanc d'œuf, le voilà. Et ce blanc d'œuf, vous voudriez le manger. Mais vous n'aimez pas que, quand c'est glaireux comme ça, vous voudriez le manger correctement. Donc, il faut quand même le cuire. Alors, vous ne savez pas faire le truc avec des Indiens là, pour faire du feu. Mais heureusement, vous êtes chimiste. Alors, vous êtes chimiste. Ça veut dire qu'au premier ordre, vous savez que les protéines, c'est ces machins-là. Ces machins-là. Ils sont enroulés pourquoi ? Alors, non. On sait maintenant que pour qu'ils s'attachent, il faut les dérouler un petit peu et qu'ensuite, il y aura des ponts disulfure qui vont se faire. Bon, alors, mais comment les dérouler ? Eh bien, il y a plusieurs façons, dans le fond. La première façon, si vous êtes cuisinier, c'est de fouetter très, très longtemps parce qu'à ce moment-là, au bout d'un moment, les œufs grainent et c'est une sorte de coagulation. Mais c'est vraiment fatigant et comme vous êtes chimiste, il y a certains chimistes. Il y a des chimistes paresseux, des chimistes travailleurs. Comme vous êtes un chimiste paresseux comme moi, vous vous dites, ça ne va pas, il faut que je trouve quelque chose de mieux. Alors, ben réfléchissons, les protéines, elles sont roulées comme ça parce qu'elles sont dans l'eau. Si on les met dans autre chose que dans l'eau, elles se déroulent toutes seules et elles s'attachent. Ah ben, que mettre avec elles ? Ben, ici, on m'a donné de l'alcool à 90. Alors, c'est parce que l'Université de tous les savoirs est chiche. Elle aurait dû me donner une bonne eau de vie de prune. Alors, on verse. On touille. Et c'est cuit. C'est moins fatigant, hein. Alors, il faut touiller un petit peu plus, voilà. Parce que ça vient pas bien au centre, hein. C'est glaireux, comme je disais. Et voilà, on l'a cuit. Alors maintenant, évidemment, l'alcool à 90, alors il n'est pas dénaturé, donc on pourrait le boire, hein. C'est pas bien grave, mais c'est quand même, gastronomiquement, c'est pas le top du top, comme ils disent. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on décante. Et voilà. Et puis ça, on le réutilise. Bon, alors, avec une eau de vie de prune ou de Mirabelle, c'est quand même mieux. Hein. Ça marche aussi. Hein. Bon, maintenant qu'on a fait ça, ben, on a vérifié, on corrobore l'hypothèse qu'on avait, qui était des ponts disulfure, etc., parce que les protéines se déroulaient, etc. Tout ça est très simple. Hein. Un enfant de 5 ans comprend. Hein. J'ai fait l'expérience avec des enfants, c'est pour ça. Maintenant, une grave question. On s'amuse à mettre des alcools dans les blancs d'œufs. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas s'amuser à mettre autre chose ? Oh tiens, pendant ce temps-là, regardez celui-là comme il a gonflé. Il est superbe, hein, il a un beau profil, très bien. Bon, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre autre chose que... Ah ben les Chinois, eux, pour faire des œufs de 1000 ans, comme ils disent, ou des œufs de 100 ans, je ne sais pas trop, ils les mettent dans de la chaux, enfin ils font un emplâtre avec de la chaux et de la terre et un peu d'eau. Ou bien ils prennent de la cendre. Alors ça, c'est intéressant pour le chimiste parce que la cendre contient de la potasse, qui est une base, et la chaux est une base également. Donc on se dit, les œufs dans une base, ça les conserve. Ouais, mais les œufs dans un acide. Alors, je n'ai pas vu de recette qui consiste à mettre un œuf avec, par exemple, du vinaigre. Donc, évidemment, un chimiste expérimentateur qui n'a qu'une idée en tête, c'est bien simple. D'ailleurs, je voudrais signaler que Diderot a dit... Il y a eu un très bon livre qui vient de paraître aux presses du CNRS, La chimie charitable à l'usage des dames, qui est une réédition d'un vieux traité d'avant Lavoisier, et par une nommée Marie Mordrac, et Jean-Jacques, qui est un extraordinaire chimiste au Collège de France, Jean-Jacques a fait une belle préface, et il citait Diderot, sans doute pour s'en moquer, Diderot disait « La méditation est douce, c'est l'expérience, c'est compliqué. » Moi, je suis désolé, quand je suis fatigué, je fais des expériences. Je ne vais pas me mettre à réfléchir, hein, c'est beaucoup trop... Donc Diderot n'avait pas raison. Et Jean-Jacques avait raison de le citer pour dire qu'il n'avait pas raison. Bref, donc nous voulons faire des expériences. Immédiatement, nous disons, ben, mettons avec des acides. Alors des acides, on en a, acide chlorhydrique ou vinaigre, parce qu'en cuisine, si on ne veut pas chercher d'autre chose, eh ben, on prendra le vinaigre. Alors le résultat, ça c'est mon œuf chouchou au vinaigre. C'est le premier que j'ai fait. Le voilà. C'était un tout petit œuf de caille. Alors, il est à peu près... Enfin, il a bien grossi. Il a perdu sa coquille. Hein. Il est coagulé. Est-ce que c'est bon? Ben, quand même, quand vous faites des cornichons au vinaigre, c'est bien pareil. Hein. Alors, celui-là, je ne le mange pas parce que c'est mon premier. J'y tiens. Je le garderai toute ma vie. On est ensemble. Mais c'est quand même étonnant que ça ait gonflé comme ça. D'ailleurs, ça me fait penser à la chose suivante. Ceux qui expliquent que le sel agit sur les aliments disent que ça fait dégorger. En cuisine, on dit ça fait dégorger. Dégorger, pour un chimiste, ça ne parle pas beaucoup, mais ce qui parle, c'est osmose. Osmose, c'est la chose suivante. Si vous mettez dans un verre d'eau une goutte de sirop de menthe, au début, le sirop de menthe est bien localisé. C'est-à-dire que les molécules du sirop de menthe sont toutes ensemble, au milieu des molécules d'eau. Mais rappelez-vous que tout ça bouge très vite, hein, et donc il y a des chocs. Or, imaginez des boules de billard rouges avec plein de boules de billard blanches qui tournent autour, qui cognent dedans, où à un moment, ça se disperse. Et c'est bien ce qu'on observe, le sirop de menthe se dissout progressivement dans le verre d'eau. Bon, ça c'est un processus connu de tous les physiciens. Maintenant, imaginez qu'on sépare en deux. Eh bien, si on sépare en deux, l'eau va... Alors, là, ce qu'on a vu, c'est quand même que le sirop de menthe va évoluer de telle façon que sa concentration soit partout pareille. Et inversement, l'eau aussi. Alors maintenant, si vous avez deux compartiments, on va les schématiser comme ça, deux compartiments séparés par une membrane qui laisse passer les molécules d'eau et pas le reste. Imaginez que là, il y a du sel et que là, il y a de l'eau. La concentration en eau, elle est 100% là, et là, elle est zéro. Alors que là, la concentration en sel est 100% et là, c'est zéro. Et bien, ça va migrer par le même type de phénomène de boule de billard, de telle façon que l'eau dissolve le sel. C'est le phénomène d'osmose, et ça, c'est ce qui est prétendu, ce qui théoriquement devrait... flétrir la salade. Bon, ben, je ne pense pas que ça flétrira la salade. En tout cas, ici, ce qui s'est passé, c'est que, d'une part, le vinaigre a attaqué le calcaire de la coquille. On a vu des petites bulles. C'est une expérience très amusante à faire. Hein. On prend un bol, on prend l'œuf, on met du vinaigre cristal, et on voit des tas de choses pendant à peu près 3 mois. Il se passe chaque jour quelque chose. Hein. C'est mieux que Galerie Lafayette. La première chose, c'est donc ces espèces de petites bulles. Ça veut dire, alors, il faut s'amuser à les caractériser. C'est donc du dioxyde de carbone. Qui est dégagé par l'attaque du calcaire. Mais ensuite, on voit les choses suivantes. On voit, le lendemain, par exemple, il n'y a déjà plus de coquille, mais l'œuf a conservé sa forme. C'est assez fragile. Si on le touche à ce moment-là, ça peut claquer. Ce qu'on voit aussi, c'est que le jaune flotte à travers. Et qu'il flotte à travers, comme on l'avait dit pour tout à l'heure, dans l'œuf. Donc c'est pour ça que je vous dis, ceux qui pensent aux chalazes, qui sont les membranes qui tiennent le jaune, eh bien, ils n'ont qu'à faire l'expérience avec du vinaigre et ils verront bien que les membranes ne sont pas très efficaces pour retenir le jaune. Peut-être qu'avec des œufs de différentes fraîcheurs, ça change. Hein. Je suis prudent. Alors ensuite, pourquoi ça gonfle? Ben, ça gonfle parce qu'à l'intérieur de l'œuf, c'est du blanc d'œuf. Le blanc d'œuf, c'est 10% de protéines et 90% d'eau. Oui, mais dans le vinaigre, c'est plus d'eau et un peu d'acide acétique. Ben, il va y avoir osmose de telle façon que ça rentre. Est-ce qu'on peut corroborer cette hypothèse? Ben oui, en prenant un vinaigre plus fort, c'est-à-dire en mettant de l'acide acétique en plus. Et là, on peut avoir des œufs qui coagulent, mais sans grossir. Hein. On peut s'amuser avec de la soude, avec de l'acide chlorhydrique, avec des tas de choses. D'ailleurs, imaginons qu'on voudrait l'avoir salé à cœur. Ben, je le mets à l'acide chlorhydrique. Il coagule très vite, mais à l'intérieur, l'acidité est très forte. Ensuite, j'y mets de la soude. La soude neutralise l'acide chlorhydrique, ça fait du sel. Donc, j'ai salé à cœur. Je rigole. Bon, alors, des questions. Alors, dans le titre, il y avait « Avancées récentes ». Il me reste 5 minutes 10. Ah bon, ça va, 10, on a du temps. Des questions récentes. Ben, en voilà une. Quand on fait des quiches, on fait une pâte à tarte. Ça, c'est un grand sujet qu'on n'évoquera pas aujourd'hui. On fait des quiches et dedans, on met ce qu'on appelle en Lorraine la mocoille. Alors, la mocoille, c'est de l'œuf plus du lait ou de la crème, plus les fioritures, les petits lardons, etc. Bon. Et puis, quand on est cuisinier domestique, on a toujours envie de mettre un peu plus de lait, ça coûte moins cher, quoi. Puis l'œuf, ouais, ça a l'air d'être un bien précieux, l'œuf, alors que le lait, on y va plus facilement. Mais vient bien un jour où on met trop de lait par rapport à l'œuf et ça prend plus. Et là, on est bien ennuyé. D'où la question importante, combien peut-on mettre de lait avec un œuf de telle façon que ça prenne encore, en flan, en quelque sorte, hein, parce que le flan, la quiche, tout ça, c'est pareil. Eh bien, réfléchissons. Nous savons maintenant, quand on chauffe un blanc d'œuf, que ça fait ce qu'on appelle ce réseau qui s'appelle le gel, c'est-à-dire les protéines qui sont coagulées et qui tiennent les molécules d'eau. Alors, des gels, en caricaturant un tout petit peu, on peut avoir ces situations-là. C'est-à-dire, c'est à l'envers. Voilà. Donc, on part d'un mélange. Alors, là, j'ai mis les Mickey, là, c'est des molécules d'eau. Hein. C'est parce que c'est H2, deux atomes d'hydrogène, O, un atome d'oxygène. Bon. Donc, il y a plein de molécules d'eau. Il faut partir d'ici. Là, c'est le blanc d'œuf, hein, ou c'est l'œuf allongé de liquide. Donc, des molécules d'eau et puis des protéines. Je n'ai pas respecté la proportion, mais ce n'est pas bien grave. Il y a à peu près trois solutions caricaturales. C'est-à-dire, la première, les molécules de protéines ont le temps d'aller les unes contre les autres et elles forment un amas très serré. Là, la quantité d'eau qui est dans le gel, c'est zéro. C'est-à-dire que toute l'eau est restée à l'extérieur. J'ai une espèce de petit grumeau à l'intérieur. Alors, ici, ça, c'est plus intéressant. C'est ça que je voudrais obtenir, parce que là, j'ai mis beaucoup d'eau. C'est-à-dire que j'ai mis un douzième des protéines qui se sont attachées j'ai fait un cube parce que c'est plus facile, hein, et l'eau au milieu qui est piégée, comme les mouches dans des toiles d'araignée, quoi. Et puis le cas intermédiaire, qui est le cas réaliste, et où les protéines forment une espèce de réseau cubique qui piège les molécules d'eau. Cubique ou pas cubique, peu importe, hein. Ce qui est intéressant avec cette représentation, c'est que si vous faites le calcul, ce calcul, je tiens à le dire, n'impose que des règles de trois, hein. On se dit, j'ai tant de protéines, j'ai tant d'eau, elles font telle taille, et si je les mets avec, mettons, 10 protéines sur un côté, quel volume j'obtiens? Je dis 10 protéines parce que 10 protéines, c'est aussi ce qu'on observe quand on fait des microscopies électroniques ou des microscopies en force atomique, hein, qui ont d'autres méthodes de caractérisation des œufs. Et bien là, on obtient 1 litre. Vérification immédiate. On n'a pas le droit de laisser une théorie comme ça. Alors, ce n'est pas difficile, la vérification. On prend un œuf, on l'allonge d'un volume d'eau. On cuit. Ça prend en flanc, très bien. Ensuite, on prend un œuf, on l'allonge de 2 volumes d'eau. On cuit, ça prend en flanc, très bien. Et on continue. Eh bien, j'ai plaisir de vous dire qu'on arrive à 0,6 litres de liquide pour un œuf, ce qui est beaucoup. Alors, les gens de mauvaise foi, les cuisiniers, parfois, veulent tout savoir, surtout quand ils sont très grands. Pas tous, hein, il y a des gens extraordinaires, et puis il y a des gens qui ont beaucoup d'ego, et puis il y a tout. Enfin, c'est comme pour les chimistes, hein. Alors, certains me disent « Ah ouais, mais on le savait déjà depuis longtemps. » Alors, à ce moment-là, je dis la question suivante, d'accord, mais alors, si tu le sais depuis longtemps, tu pourras sans doute me dire s'il faut chauffer fort ou lentement. Qui vote pour ? Alors, c'est-à-dire, on prend au maximum 0,6 litres et un œuf, et il faut chauffer pour faire le flan. Alors, qui vote pour « il faut chauffer fort » ? Pas beaucoup. Qui vote pour « il faut chauffer lentement » ? Plus. Qui vote pour « je ne sais pas » ? Ah, une grande majorité, bravo ! Alors, la réponse expérimentale, c'est « il faut chauffer fort ». Et la raison est suivante, c'est que si vous chauffez lentement, les molécules de protéines ont le temps de diffuser en quelque sorte. Donc elles vont se placer correctement, elles vont bien coaguler. Alors que si vous trempez le système, c'est-à-dire que vous l'avez comme ça, et tout d'un coup, crac, vous le figez dans sa position, c'est plutôt quelque chose comme ça ou comme ça que vous avez. C'est-à-dire que les molécules ne bougent pas pour aller s'agréger. Et donc, il faut chauffer fort. Expérimentalement, c'est ce que vous voyez. Donc, la cuisine a toujours intérêt, je crois, à ne pas perdre son âme en pensant que la science va lui donner des recettes pour faire du bon goût, parce que le goût, c'est la partie esthétique de la cuisine, c'est la partie artistique, ça, la science n'a rien à en dire. Hein. Pourquoi est-ce que, quand Picasso fait Guernica, il met un cheval torturé plutôt qu'une vache la science ne peut rien en dire. Hein. Pourquoi est-ce que, quand Pierre Gagnaire fait... une espèce de petite endive fourrée à l'épinard, il a choisi de mettre de l'épinard et de l'endive, je n'en sais rien. C'est la partie artistique, et c'est pour ça que j'admire les grands chefs. Hein. C'est qu'ils ont, comme des musiciens, comme des peintres, ils ont cette espèce de talent, enfin de don, d'associer des choses extraordinaires. Hein. En revanche, je dis que la physique et la chimie peuvent les aider sur la partie technique. C'est une partie peu noble, humble, mais qui procure beaucoup de joie. Alors, maintenant qu'on en est là, il ne me reste plus beaucoup de minutes, il faut que j'aille très très vite. Alors, on n'a pas fait de chimie, c'est désolant qu'on n'ait pas fait de chimie. On va faire de la chimie à toute vapeur, c'est le cas de le dire. Ah, il me faut une casserole, je n'ai pas prévu. Voilà, un truc comme ça, on va le chauffer très fort. Le caramel. Alors, non, pardon. Quand vous êtes chimiste, vous avez sur votre étagère de gauche des livres de chimie. Le Volart, le veille rénal, plein de livres de chimie. Ces livres de chimie vous disent qu'il y a des groupes chimiques formés d'atomes qui peuvent réagir dans certaines conditions. Très bien. Puis de l'autre côté, si vous êtes cuisinier, dans votre cuisine, vous avez du vinaigre, des œufs, de la gélatine. Et puis, vous êtes chimiste quand même, donc vous dites, ah ouais, mais la gélatine, c'est une protéine, et puis elle a des groupes qui réagissent comme ci, comme ça. Est-ce que je ne pourrais pas croiser mon Volart avec mes produits? Alors, la réponse est oui. D'habitude, quand on fait du caramel, qu'est-ce qu'on fait? On prend du sucre de table, du saccharose, donc c'est deux petites moitiés chimiques, disons, et puis quand on chauffe, ça se dissocie, et puis certaines se réassocient comme ça. Je simplifie un tout petit peu. On met un peu d'eau en général. Hein. Ouais, mais il y a plein d'autres sucres que le saccharose. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, prendre du fructose cristallisé? Ça s'achète dans un supermarché, hein, champion. Alors, du fructose cristallisé, peut-on faire un caramel de fructose? C'est pas dur, hein, on fait l'expérience, voilà. Donc, on fait exactement comme du caramel. Ce qui pose des tas de questions, bien évidemment. Alors, la réponse, ça sera oui. On va obtenir un truc qui devient marron. Un chimiste de mes amis qui s'appelle Jacques Reis, qui est à Bruxelles, m'a fait la remarque, oui, mais est-ce que tu n'es pas en train puisque tu fais de la chimie, est-ce que tu n'es pas en train de faire des choses dangereuses? Réponse, de toute façon, dans mon saccharose, je fais du caramel de fructose, puisque ça se dissocie en deux et qu'il y a une partie fructose qui va se réassocier. Donc, je n'ai pas peur, je le mangerai. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec, pas avec le fructose, mais avec le glucose, que je n'ai pas aujourd'hui, le caramel de glucose a un petit goût de raisin confit. Ça, j'adore. Alors, par exemple, si vous faites un... Ah non, c'est trop compliqué. Bon, alors maintenant, il ne me reste pas beaucoup de temps, donc il faut qu'on passe... Ah oui, il me reste deux points. Deux points, c'est... vous avez vu dans le programme de gastronomie moléculaire. Alors, un, explorer les tours de main. Deux, comprendre ce qu'on fait. Pour l'instant, on a bien rempli le programme. Trois, introduire des ustensiles et ingrédients nouveaux. Ustensiles et ingrédients nouveaux, voilà des ingrédients, mais il y en a d'autres. Par exemple, là, j'ai du cinnamaldéhyde. Ce machin-là, ça coûte 3 francs 6 sous. Ça sent formidablement. Alors, cette molécule-là, dans mes plats, j'en veux. Alors, il y en a d'autres. Moi, j'ai un petit faible pour le 1-octentrol, qui est un arôme de sous-bois extraordinaire. Ça vaut vraiment 3 francs 6 sous hein, chez des fabricants de produits chimiques. Hein. Donc on met une goutte dans un plat pour toute la famille. Un flacon comme ça, ça dure une vie. Hein. Alors, il ne s'agit pas de reconstituer le cèpe ou la girole ou la truffe. Ce n'est pas le propos. Je ne suis pas un faussaire gastronomique. Il s'agit simplement de se dire, nous avons une flopée de molécules que nous pouvons utiliser pour faire autre chose en cuisine. Alors là, c'est l'acide ascorbique, la vitamine C, je vous en ai déjà parlé, il y a plein d'applications. Ça, c'est la lysine. Bon, ça serait trop compliqué. Alors, ça, c'est les ingrédients. Les ustensiles nouveaux, ça s'appelle un thermocouple. C'est pas cher. Hein. C'est deux fils de métaux différents qui sont soudés au bout. Et ça mesure la température. Par exemple, on appuie sur le bouton, crac, on le met dedans. Et là, j'en suis à 155 degrés. Vous voyez, c'est quand même plus pratique qu'un thermomètre. Ça ne casse pas. Deux fils de métaux différents, ça ne coûte rien. Ça, c'est une petite centrale qui mesure un courant électrique qui passe entre les deux. Alors, voilà un ustensile nouveau. Un deuxième, l'ampoule à décanter. Il y a ça dans tous les labos de chimie. Alors, en gros, on met deux produits, deux solvants organiques différents qui ne se mélangent pas. Et puis, on met quelque chose dont les molécules se répartissent entre les deux. Comment faire pour faire venir ça en cuisine? Pas dur. Deux liquides qui ne se mélangent pas. L'huile et l'eau. On va mettre des choses qu'on voudrait séparer. On va prendre un petit morceau de cèpe qu'on a fait sauter avec de l'ail. On le met dedans, broyé. On secoue. Les molécules aromatiques du cèpe qui se dissolvent dans l'eau vont dans l'eau. Celles qui se dissolvent dans l'huile vont dans l'huile. On sépare, on récupère une eau parfumée avec certaines des molécules et une huile parfumée avec d'autres molécules. Autrement dit, on a créé deux goûts à partir d'un seul. Alors, la cuisine qui est toujours à la recherche de goûts nouveaux, là, on multiplie tous les goûts de la cuisine par deux. C'est-à-dire, je pourrais mettre de la salade, du paprika, n'importe quoi. Hein. En plus, on n'a pas besoin d'ampoule à décanter en cuisine, parce qu'un bocal à confiture fait le même effet. Vous mettez de l'huile et de l'eau dans un bocal à confiture, votre cèpe, vous secouez un bon coup, et puis vous décantez lentement l'huile d'un côté, l'eau de l'autre, ça fait le même effet. Bon. Donc, des ustensiles, des méthodes nouvelles, ça c'est facile aussi. Ah, et puis, alors voilà une méthode nouvelle. Tiens, on va faire de la glace. Alors, pardon à ceux qui ont déjà vu cette expérience, mais qu'ils se rassurent en disant que je l'ai vu encore plus qu'eux. Et en plus, c'est bon. Alors, il y a peut-être un endroit où on ouvre. Alors, on a donc fait une préparation pour sorbet ou pour glace. La voilà. Elle a quoi, celle-là? Elle est à la fraise. Et d'habitude, en gros, quand on fait un sorbet, par exemple, hein, c'est pas dur, on prend une casserole, on prend du sucre, on prend de l'eau, on fait un sirop, on met des fraises dedans, un coup de mixeur, un jus de citron, parce que ça relève un peu le goût, une gousse de vanille, tout ce que vous voulez. Bon. Et vous avez cette préparation liquide. Mais là, on n'a pas fini le travail, parce qu'il nous manque de la turbinée à la sorbetière. Alors, la sorbetière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait qu'elle refroidit. Autrement dit, l'eau, elle va prendre en glace et puis y avoir des petits cristaux, de tas de trucs, bon, etc. Tout ça va très bien. Alors maintenant, réfléchissons. Nous voulons faire mieux la cuisine. Donc, nous voulons mieux réussir la glace. Comment allons-nous faire? Ben, qui préfère avoir un gros glaçon dans la bouche et qui préfère avoir un petit glaçon? Le gros glaçon, levez la main. Personne. Très bien. Qui vote pour je ne sais pas? Ah, quand même. Vous voulez faire l'expérience avant, vous avez raison. Donc, on préfère des petits glaçons parce que la texture est plus fine et plus souple. Alors, les chimistes savent bien, quand on fait croître des cristaux de quelque chose, si on fait croître très vite, on a des petits cristaux. Hein. En revanche, si on fait croître très lentement, sans bouger, on a des gros cristaux. Donc, moi, je veux faire croître très vite. Autrement dit, j'ai intérêt à refroidir très vite et à touiller. Est-ce que j'ai quelque chose pour touiller? Voilà. Ben, pour refroidir très vite et pour touiller, il faut des lunettes. Voilà. Donc, on met des lunettes. Ah, il faut que j'arrête ça. Ça sent délicieusement le caramel. C'est brun. Hein. Il est bon, celui-là. Mais je ne sais pas quoi en faire. C'est ça qui m'ennuie. Attention, la casserole est très chaude. Il ne faut pas brûler le... Voilà. On va l'arrêter là. On pourrait le... On va le décuire. J'aurais dû penser. Enfin, c'est ce qu'ils appellent décuire. Hein. C'est pas moi. Voilà. On va mettre plein, et puis comme ça réduira après, on sera tranquille. Voilà. Bon, alors, on voulait refroidir. Ah oui, alors pour refroidir, ben, la sorbetière, c'est pas terrible pour refroidir. Ça refroidit à moins 20 degrés. Alors que nous avons, grâce à l'équipe du laboratoire de cryogénie du CNAM, monsieur Bertola, monsieur ou madame Bertola, que je remercie. On l'applaudit s'il est là, monsieur Bertola. Nous avons de l'azote liquide. Alors, l'azote liquide n'est pas dangereux. Enfin, pardon. L'azote liquide est dangereux. C'est-à-dire que si j'y mets ma main, elle est congelée, je donne une pichenette, ça tombe. Hein. Ça, c'est... Si j'ai une verrue, je trempe et ça tombe aussi. Bon. Mais elle a d'autres intérêts. Elle a l'intérêt que c'est à moins 200 degrés à peu près. Donc là, pour refroidir très vite, c'est gagné. Alors, la recette... Je déteste les recettes, parce que les recettes prennent les gens pour des imbéciles. On vous dit, battez les blancs en neige, ajoutez les jaunes d'œufs. Mais qui sont-ils pour nous donner des ordres, hein? Donc je déteste la recette, mais disons, les proportions, c'est pour un litre de sorbet ou de glace, il faut à peu près un litre d'azote liquide. Le mode d'emploi est extrêmement simple, comme vous allez voir. On verse. Alors après, il faut faire le foisonnement, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des bulles qui soient piégées. Donc on touille vaguement. Il faut aller vite parce que c'est déjà pris, hein. Voilà. On y est. Alors, je suis confus, j'ai été beaucoup trop vite, j'en ai mis trop, j'ai pas eu le temps de foisonner. Donc, si vous le faites chez vous... Ah non, vous riez, mais vous n'avez pas raison. Parce que vous avez l'impression que cette expérience est tout à fait exotique. Dans le fond, à la maison, on a des bouteilles de but à gaz qui sont au moins aussi dangereuses, au moins aussi encombrante, et je ne vois aucune raison pour laquelle nous n'aurions pas d'azote liquide. C'est juste une question de mentalité à changer. Ça prendra ce que ça prendra. La raison en est que ceux qui pourront goûter tout à l'heure verront que c'est infiniment meilleur. C'est-à-dire qu'en bouche, on a testé cette recette à l'aveugle et en triangulaire avec les frères Conticini à la table d'envers et l'équipe du Gomio. Et tout le monde a reconnu immédiatement que c'est plus parfumé. Alors, ce qui est rigolo aussi, c'est qu'on l'a fait un jour avec les directeurs généraux du groupe Danone, qui ont vu que c'est plus parfumé. C'est-à-dire que la texture est mieux, mais c'est plus parfumé. Et ça, il y a un très gros travail actuel de recherche des centres INRA, en particulier sur les relations texture-arôme, qui est important de comprendre pourquoi, avec une texture plus fine, on perçoit mieux les arômes. Hein. Ça, c'est important parce que si vous faites la cuisine, vous direz, bah, tiens, j'ai intérêt à diviser plus mes systèmes, mes systèmes physico-chimiques, pour arriver à donner plus de goût. Hein. Donc voilà, alors c'est mieux, c'est pas, pour l'instant, ce n'est pas encore pratique, mais on peut imaginer qu'un grand chef est quelqu'un qui est extraordinaire, c'est quelqu'un qui veut être meilleur que tout le monde dans son domaine, et certains sont prêts à faire l'azote liquide si ça leur fait la meilleure glace du monde, hein, c'est bien clair. Il faudra sans doute à faire un petit appareil pour que ce soit un peu plus pratique à manipuler, à transvaser. J'avais mis des lunettes parce que je ne veux pas avoir de projection d'azote liquide dans les yeux, c'est le même problème, je risque de me brûler. Normalement, quelqu'un qui manipule l'azote liquide doit avoir des gants également. Hein. Donc on pourrait améliorer ce genre de système. Il me reste combien de minutes ? C'est fini. Donc alors, non, c'est fini, mais vous me donnez donc le. Je reviens à mon programme en une seconde si je le trouve. Donc vous avez vu que j'ai bien fait. Alors, un, explorer les tours de main, c'est donc ce qu'on a fait à peu près souvent. Ah, tiens, au fait, la salade, elle a absolument pas bougé. Hein. Donc je veux bien que ça dégorge, mais j'y crois pas. Et pourquoi j'y crois pas ? J'y crois pas parce que sur les feuilles de salade, en particulier de laitue, il y a une espèce de cire. Et cette cire est hydrophobe, elle protège contre ce genre de phénomène. Alors, un, les tours de main. Ah ben, c'est pas affiché, voilà. Explorer les tours de main. Deux, comprendre les opérations culinaires. C'est un peu ce qu'on a fait en plusieurs endroits. Introduire en cuisine des ustensiles et ingrédients, c'est ce qu'on vient de faire beaucoup. Inventer des plats nouveaux. L'œuf au vinaigre et l'œuf cuit sans chauffer, c'est des plats nouveaux avec des goûts originaux. Hein. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon ? Je refuse de rentrer dans ce débat parce que je ne veux pas dire quelque chose est bon. Il y a les épinards auxquels je pense tout le temps. Hein, mes enfants les détestent. Et puis 5, utiliser la cuisine pour faire comprendre que la science est belle. Ben oui, je crois qu'à une époque où les étudiants sont en train de déserter les facultés des sciences, il est temps de leur montrer que c'est appétissant. Et quoi de mieux que la cuisine pour ça ? Je vous remercie.
Merci à Hervé Tiss. Nous allons passer aux questions, si vous voulez bien. Il y a deux micros qui se promènent dans la salle avec des appariteurs. Donc, il faut. Ah, il y a là-haut, oui, d'accord. Mais il faudrait allumer un petit peu.
Bonjour, je voudrais poser une question.
Vous êtes où ?
En haut à droite.
Ah, d'accord, je vous vois, ça y est.
Oui, on sait qu'il y a de plus en plus d'allergies aux œufs. Est-ce que, justement, de mieux comprendre le mécanisme de coagulation, etc., ça permettrait de trouver des substituts, en fait, à l'œuf pour faire les mêmes préparations, et notamment les pâtisseries qui sont, on sait, toujours avec de l'œuf, quasiment. Est-ce que vous y travaillez, éventuellement ?
Alors, c'est une question qui m'a été posée par une association des personnes allergiques pour des choses alimentaires. Je crois que son siège est en Belgique. Il y a 2 ans, ils m'ont demandé de faire des recettes pour eux. Donc, alors, dans certains cas, on n'arrivera pas à faire une omelette sans œufs, c'est bien clair. Hein. Mais dans certains cas, on peut trouver des substituts. En particulier, si vous faites une mayonnaise sans œufs, c'est extrêmement facile. La mayonnaise, c'est une de mes sauces chouchou, hein, parce que, je ne sais pas pourquoi, c'est la sauce qui sert de religion d'État aux Français, disons, Ambrose Bierce dans son dictionnaire du diable. La mayonnaise, c'est en gros quoi ? C'est du jaune d'œuf auquel on ajoute parfois du vinaigre, parfois de la moutarde, mais ça c'est des fioritures, et puis de l'huile. Et ce qui se passe, c'est qu'on fouette. Alors quand on fouette, on divise l'huile en petites gouttelettes qui sont dispersées dans ce qu'il y avait avant. Ce qu'il y avait avant, on ne sait pas toujours que le jaune d'œuf, c'est 50% d'eau. Le vinaigre, c'est 95%. Donc on a dispersé de l'huile en forme de gouttelettes dans l'eau. Et c'est bien ce qu'on voit avec un microscope. Ce microscope, qui va arriver là, peut-être, voilà. Cette image a été prise avec un microscope qui a coûté moins de 400 francs, qui a été acheté dans un magasin de jouets. Hein. Donc faisons des expériences simples. Ce qu'on voit là, c'est donc des gouttelettes d'huile. C'est très très joli à voir en vrai. Hein. Ça, c'est dynamique, ça, les unes passent devant les autres. Je n'ai même pas mis de lamelles. D'habitude, on met une lame en verre, une goutte de machin, une lamelle, j'en ai même pas mis. Et puis ça bouge mieux. Hein. Alors, on voit donc des gouttelettes d'huile dans l'eau du jaune d'œuf. Alors, ce qu'on ne voit pas, en revanche, c'est qu'autour de chaque gouttelette d'huile, il y a des molécules qui s'appellent des molécules tensioactives. Je suis désolé, c'est un gros mot, mais c'est vous qui m'avez forcé à le prononcer. Ces molécules ont la particularité suivante. Elles ont une partie qui se dissout bien dans l'eau et l'autre dans l'huile. Si bien que s'il y a une gouttelette d'huile, eh bien, elle vient mettre leur partie qui aime bien l'huile dans l'huile et les gouttelettes sont ainsi recouvertes et protégées. Alors, quand vous mettez de l'huile dans l'eau, les gouttelettes ne sont pas protégées, elles montent en surface et elles se fondent les unes dans les autres, alors que là, il y a une coque protectrice, en quelque sorte. Alors, voilà ce qu'on voit. Quand on continue à battre, même grossissement, même microscope, même mayonnaise, on voit que les gouttelettes sont divisées, 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 de plus en plus nombreuses et de plus en plus tassées. Bon, ça, c'est la mayonnaise. Alors, maintenant, on peut se dire, oui, mais alors, il nous suffit d'eau, d'huile et des molécules tensioactives. Mais est-ce que celles du jaune d'œuf sont nécessaires? Ben non. Vous pourriez très bien prendre du blanc d'œuf, par exemple. Vous faites une mayonnaise au blanc d'œuf. C'est-à-dire, vous prenez un blanc d'œuf. Ah oui, vous n'avez pas le droit d'œuf du tout? Pas du tout. Bon, ben, ça tombe très bien. Vous prenez... Il y a une recette nouvelle que je vous conseille. Vous faites un fond de crustacés, très puissant, une bisque, quoi. Ça, c'est de l'eau. Vous y mettez une feuille de gélatine. C'est des molécules tensioactives. Vous pourriez mettre aussi du liquide à vaisselle, hein, ça marche pareil. C'est pas le même goût. Et ensuite, vous ajoutez l'huile en battant. Vous faites donc une mayonnaise sans œuf. Mais dans le fond, l'aioli, le vrai, n'avait pas de jaune d'œuf. C'était simplement l'ail qu'on allongeait avec un peu d'eau et on mettait de l'huile en fouettant. Alors pourquoi? Ben, dans le fond, cette recette de l'aioli peut être généralisée. N'importe quel légume, une salade, est composé de cellules, les petits sacs. Mais les membranes des cellules, c'est-à-dire l'enveloppe du petit sac, c'est des molécules tensioactives. Donc vous prenez une feuille de salade, vous la prenez au pilon, vous broyez avec un petit peu d'eau, vous ajoutez l'huile en pilonnant bien, vous faites un saladoli, aioli saladoli. On peut faire ça avec n'importe quoi, le poisson, le turbo, le bœuf, tout. Hein. Donc faire une émulsion, c'est ça, ben c'est pas bien difficile. Alors après, on peut continuer à des tas de questions sur des pâtisseries, etc. Oui, on peut réfléchir.
L'alcool à 90, on peut plus le trouver maintenant. Alors, est-ce qu'on peut...
À 70, mais non, mais l'eau
de... Ah ouais, mais à 70, on peut dans l'eau de vie de prune, mais on parle plus le 90.
Non, l'eau de vie de prune, ça sera mieux.
Ouais, d'accord. Alors, est-ce qu'on peut prendre du whisky à la place?
Ah, du whisky, très bien, du whisky.
Bon, bon, bon.
C'est une question de goût, hein. Attention, il faut plus de whisky que d'alcool à 90, parce que...
Monsieur, que pensez-vous de l'instruction, peut-être ministérielle, mais en tout cas, d'une autorité prétendue avoir mission de pédagogie, qui a défendu dans les classes maternelles et primaires les expériences festives de cuisine faites par les enfants?
Alors, je vais dans les écoles. Le problème de l'enseignement des sciences expérimentales, me préoccupe beaucoup, pour les raisons que j'ai développées mille fois. C'est-à-dire que ce que je voudrais, c'est que tous les enfants mettent d'abord la main à la pâte. Je voudrais qu'ils mettent la main à la pâte. Je m'en fiche qu'ils tiennent un cahier de laboratoire. Et ça, il se trouve que dans les instructions ministérielles, on dit aussi que le cahier de laboratoire est important. Alors, c'est un débat que j'ai eu une fois avec Georges Charpak à France Inter, que j'ai eu avec Michel Lagus il n'y a pas longtemps. Je déteste ce cahier de laboratoire pour des enfants à qui on doit enseigner de faire une expérience. On ne peut pas tout faire à la fois. Moi, mon cahier de laboratoire, le voilà. C'est un torchon. Hein. C'est un torchon, c'est écrit n'importe comment. Il n'y a que moi qui peux me relire. Il n'y a pas de date. Enfin, si, normalement, il y a des dates. Hein. Les pages sont numérotées, mais c'est cochon, c'est tout mal. Mais je ne peux pas tout faire. Quand je fais l'expérience, je ne peux pas tenir mon cahier de laboratoire. Alors après, je peux y revenir, et après, je peux y penser. Et j'ai eu une expérience très intéressante dans la vallée de Chevreuse, dans une école, où je suis venu dans une classe de CE2. On a fait un concours de blanc en neige, c'est-à-dire on donne à chacun des élèves, par binôme, parce qu'ils sont petits et ils se fatiguent vite, mais on leur donne un bol, enfin, on leur demande, les uns d'apporter un bol, les autres un fouet, à main. Hein. Et l'institutrice ou la professeure d'école, je ne sais pas comment on dit maintenant, achète 12 œufs. 12 fois 2 égale 24, on a la classe, ça ne coûte pas cher. Et puis, on leur demande de faire un concours de blanc-neige. C'est-à-dire, on leur dit, vous avez un œuf, vous êtes par binôme, vous faites le plus gros volume possible. Il y a plein de choses à raconter. On passe des après-midi entières. Hein. Pas à écrire le cahier de laboratoire. Donc, on a fait ça avec les enfants. On s'est beaucoup amusé, ça tombait bien, j'étais avec des gens de mon âge. Et ensuite, la maîtresse, une semaine plus tard, m'a envoyé le plus beau cadeau que j'ai reçu de ma vie. C'était un livre fait avec des rédactions des enfants qui avaient écrit ce qu'ils avaient vu et ce qu'ils avaient fait. Certains avaient fait des dessins, c'est très bien. Dans mon cahier de laboratoire, j'ai plein de petits dessins, moi. Des dessins, je vous en ai montré des dessins, c'est les mêmes. Alors, la science expérimentale, oui, certainement. C'est la leçon de choses qu'on faisait aussi un peu d'une certaine façon. Enfin, c'est très important que les gens mettent la main à la pâte. Le cahier de laboratoire, c'est plus difficile. Mes propres enfants à qui j'ai donné des cahiers, parce qu'on fait tout le temps des expériences à la maison, bien évidemment, on ne peut pas s'empêcher. Mais ils ne tiennent pas leurs cahiers. Et je ne vais surtout pas les ennuyer. Je suis tellement content de faire des expériences avec eux que le cahier... Alors, si, ils les tiennent. De temps en temps, il y a un petit dessin de vampire où il y a marqué « Mon frère est un imbécile ». Des choses comme ça, des choses... C'est à eux. Alors, de temps en temps aussi, il y a une formule chimique. C'est très bien, c'est gagné. Hein. Et pour plus tard, on a... rappelez-vous Aristophane, hein, ce n'est pas remplir une cruche d'eau, c'est allumer le brasier. Ah oui, mais alors à ce moment-là, on va faire autre chose. Si on ne peut pas les introduire, si on ne peut pas les... C'est-à-dire, si le... Moi, je suis allé dans une école, je les ai introduits. Hein, l'inspecteur ne m'a rien dit. Hein, donc, on en a fait, on les a introduits. En revanche, je pense qu'il serait utile de dire, et ça c'est un de mes combats encore, c'est de dire, pour faire de la physique et de la chimie, commençons par faire de la cuisine. Et d'ailleurs, il est très étrange que l'Allemagne ou le Japon... et continuer à avoir des cours d'économie domestique, alors que la France n'en a plus. À la guerre, les cours d'économie domestique ont disparu. Alors, peut-être qu'il y a un moyen de faire des cours d'économie domestique intelligents en les réunissant avec les cours de sciences. C'est ce que je propose, mais je le propose depuis peu de temps parce que je n'ai pas eu l'idée avant. Mais si vous voulez me soutenir dans ce combat, donnez-nous la main.
Voilà. Une dernière question.
Oui, moi, je voudrais savoir si vous pouvez...
Vous êtes où ?
Je suis là.
Ah, pardon.
Si vous pouvez vraiment décuire votre caramel.
Non. Oui, il est décuit. Non, mais décuire, ça veut simplement dire qu'au lieu qu'il reste dur, on a un truc liquide. Alors là,
Oui, mais il ne perd pas, il ne retrouve jamais le goût du sirop de sucre.
Non, mais pardon. Là, excusez-moi, alors c'est de ma faute. Le mot décuire pour un caramel veut dire simplement obtenir quelque chose qui ne soit pas solide, mais liquide.
Ah oui.
Ah non, je ne prétends pas avoir...
C'est ça,
non, certainement pas. Certainement pas pour une raison très simple, c'est que quand vous faites un caramel comme ça... Lors de la réaction chimique, je vous ai dit, ça se sépare et ensuite ça s'associe. Lors de la réaction chimique, il y a une molécule d'eau... il y a d'abord des molécules d'eau qui s'en vont, mais ensuite, il y a des tas de choses qui sentent bon. Et ces choses qui sentent bon, c'est des molécules nouvelles qui se sont formées et tout s'est réorganisé. Quoique, peut-être qu'un chimiste plus habile que moi arriverait à décrire, c'est une question qu'il faut poser. Je ne sais pas.
Bon, il y a une toute dernière question, alors.
Oui. Je voudrais vous demander sur l'omelette. Il y a un mois, j'ai essayé de faire une recette d'omelette aux truffes. Mais comme les truffes sont très chères, j'ai remplacé les truffes par des champignons parfumés chinois. Et alors, quand je fais la réaction, je suis un chimiste, ça m'inquiète beaucoup de chauffer l'omelette parce que j'ai peur de perdre les parfums.
Vous avez tout à fait raison.
Et maintenant, votre recette là-bas, de le faire avec de l'alcool, je crois, pour le faire l'omelette à froid, est excellent, parce que...
Vous avez tout à fait raison. On pourrait ajouter la chose suivante, c'est que les cuisiniers sont des gens extraordinaires, parce que moi je m'étonne toujours qu'on arrive à faire la cuisine aujourd'hui, parce que si on n'a pas la physique et la chimie, comment est-ce qu'on y arrive, hein? Bon, mais enfin, ils sont extraordinaires, ils ont inventé notamment le couvercle. Alors le couvercle, c'est une chose qui empêche que ça sente bon dans la cuisine et ça sent plutôt bon dans la casserole. On peut même le lutter, ce couvercle. C'est avec de la pâte, on lutte un couvercle. Hein. Maintenant, alors, et c'est vrai que c'est différent. Hein. Alors ça tient mieux la chaleur, ça tient les arômes, ça tient plein de choses. Maintenant, réfléchissons différemment. Est-ce que le but, c'est de retenir les arômes, hein? Alors les chimistes, eux, ils ont mis au point ce qu'on appelle les colonnes à reflux. Les colonnes à reflux, c'est une espèce de ballon. Enfin, il y a un ballon et dessus, on met une colonne en verre. Et cette colonne, il y a un réfrigérant parcouru par de l'eau froide qui est autour. Si bien qu'on fait les réactions chimiques qui durent longtemps, les choses s'évaporent, et puis elles se recondensent parce qu'elles sont refroidies. Bon, et bien en cuisine, je maintiens que les colonnes à reflux seraient indispensables. Alors évidemment, il ne faut pas les faire en verre parce que ça casse, mais il est urgent que des fabricants nous inventent les colonnes à reflux métalliques. Pardon ? Vous en avez en cuisine ? Ah oui, dans les cocottes, parfois, il y a une espèce de petit... C'est pas tout à fait pareil, c'est moins efficace. Hein. Non, moi je voudrais une vraie colonne à reflux, hein. Une qui marche.
Seulement, vous ne pouvez pas éviter de chauffer à 40-50 degrés, qui risque de même pendant la cuisson, ça détruit les arômes.
Ah, ça c'est vrai.
Ça c'est une réaction chimique.
Ça c'est vrai. Oui, mais alors attention, chimique, si que, attention que en mettant de l'alcool, l'alcool c'est, ah, c'est un voilà. composé qui réagit quand même. Donc avec certains arômes, vous pouvez faire des choses. Hein.
Mais justement dans la recette, on bat l'œuf pour le faire comme de l'œuf en neige blanche, si vous voulez, en neige. Et puis on rajoute dedans de l'alcool et les truffes.
Oui, oui.
Non, c'est une recette tout à fait exactement comme là. Et je crois que je vais essayer votre méthode.
Vous pouvez répéter votre adresse électronique, s'il vous plaît.
Ah, l'adresse électronique. Alors, en majuscule HTHIS, comme Hervétis, enfin bon, sans point, enfin HTHIS, @ compuserve.com. Alors, c'est C-O-M, comme Michel, P-U-S-E-R-V-E.com.
Voilà, nous vous remercions.